Yevamot Daf Ainzaim. Bonjour, dans le show d'aujourd'hui, je suis intéressé de raconter pas mal de choses intéressantes qui concernent Megillat Ruth, qu'on va lire Bezrat Hashem très bientôt à Shavuot. On ne peut pas passer cette Megillat Ruth. Il y a là-bas une histoire très intéressante qui concerne le Sechet Yevamot, toute une histoire de Yiboum. On va essayer de comprendre ce que c'était exactement le Yiboum qui était là-bas. Et mis à part ça, ça va concerner aussi notre Daf. Que dans notre daf, on va voir la halakha spéciale qui dira que Hachem nous a interdit de se marier avec certains peuples, dont Ammon et Moab, et ça concerne bien sûr aussi toute l'histoire de Megillat Ruth. On va essayer de raconter l'histoire en s'attardant sur les sujets qui nous intéressent en tant que personnes qui étudient Masechet Yevamot et notre daf. On va essayer de voir toute l'histoire de cette halakha, comment cette halakha s'est déroulée au courant des générations, que les Chachamim ont fait une racha à propos du pasouk qui dira qu'on ne va pas se marier avec le peuple de Ammon et Moab. Et les Chachamim ont fait une racha qu'on parle que des hommes, pas des femmes. Une femme qui sort de ce peuple, après qu'elle va être convertie, bien sûr, on pourra se marier avec elle même tout de suite, après la première génération. Et ce sera toute une discussion qu'on va voir qui se passe dans Megillat Ruth. Enfin, chiant intéressant et c'est pas à rater. Avant de commencer l'histoire de Megillat Ruth, on va prendre le Rambam qui va résumer les halakhot qui ont été ramenées dans notre daf. Le Rambam, il va nous dire qu'il y a deux peuples que la Torah nous a interdit de se marier avec eux pour toujours. C'est Ammon et Moab. Et par contre, ici, cette interdiction, c'est que pour les hommes, pas pour les femmes. Et la halakha de Moshe Mitzinaï dira que les femmes sont permises. Et c'est sur ça qu'on va s'attarder aujourd'hui. Il y a deux autres peuples que la Torah nous a permis de se marier avec eux, mais qu'au bout de trois générations. C'est le peuple Mitzri, les Égyptiens, et les Édomis. Ces deux peuples-là, celui qui va se convertir et son fils, on ne pourra pas se marier avec eux. Ils pourront se marier qu'avec des convertis aussi. Par contre, son petit-fils pourra se marier, ou sa petite-fille pourra se marier complètement avec n'importe quel juif. Et cette halakha concerne les hommes et les femmes. En ce qui concerne Megillat Ruth, c'est l'histoire de Elimelech et Naomi. C'était un couple qui faisait partie du Shevet Yehuda. Ils étaient dans la période des Shoftim. Les Shoftim, c'était à partir de la période où Yeshua a fait entrer les Bnei Israël en Eretz Israël. Pendant 300-350 ans, il y avait la période des Shoftim. C'était une période où il n'y avait pas encore de royaume du clan d'Israël. Il n'y avait pas de roi. Chaque Shevet, il était un peu pour sa vie, pour sa propre peau. Et de temps en temps, ils faisaient des conquêtes en fonction de ce qu'ils avaient besoin. Et ils n'avaient pas conquis complètement tout Eretz Israël, comme l'a fait plus tard David Ameler, qui toute sa vie a fait des guerres. Eretz Israël, il y avait encore beaucoup de goyim en Eretz Israël. Et chaque chevet, il a reçu son héritage en partie. Et c'était un moment très calme, très paisible dans le clan d'Israël. On appelle ça dans le Nach, Ishtachat Gafno, Ishtachat Teeno. Chacun, il labourait son champ, il récoltait ses récoltes, et tout le monde était tranquille et vivait dans une vie très intense de Torah et de Mitzvot. Il y avait quand même quelques trébuchements qui a eu au courant des générations, comme va nous le raconter le Tanakh, mais de manière générale, c'était une période très très élevée dans le clan d'Israël. Pendant cette période de Shvot HaShoftim, il y avait ce moment-là où il y avait Elimelech et Naomi qui étaient des gens très importants et très riches du Shevet Yehuda. Elimelech, c'était le chef du Shevet Yehuda. Et de son temps, il y a eu une grande famine parce que les Bnei Israël, ils ont commencé un petit peu à arrêter c'est écrit au début de Megillat Ruth, Bimei Shvot HaShoftim. Et il y a une drasha là-dessus qui dira qu'ils ont commencé à moins écouter les Sanhedrin, les Bat Edinim, etc. Donc, il y a eu une petite descente spirituel dans le clan d'Israël. À cause de ça, Hachem, il a donné une grande famine. Et Elimelech, qui était très riche, au lieu de s'occuper de ses frères qui étaient affamés, il a décidé de sortir d'Eretz Israël avec toute sa richesse et d'aller à Moab. Cette avéra lui a coûté la vie, à lui et à ses deux enfants, qui s'appelaient Mahlon et Kilion. Avant qu'ils soient morts, Mahlon et Kilion, ils ont eu le temps de se marier avec deux princesses de Moab, les filles du roi de Moab, qui s'appelaient Ruth et Orpa. Mahlon a pris Ruth, Kilion a pris Orpa, et plus tard, ils sont morts. On va voir comment ils se sont mariés avec elle alors que c'était des goyotes. Est-ce qu'ils ont fait une conversion ou pas? En tout cas, l'histoire, elle est comme ça. Ils ont eu le temps de se marier avec elle, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils sont morts, et Elimelech, et Mahlon et Kilion. Finalement, les trois femmes sont restées ensemble, Naomi, la femme d'Elimelech, et Ruth et Orpa, les femmes de Mahlon et Kilion, qui normalement étaient censées revenir dans le palais du roi de leur père, mais ils ne l'ont pas fait tout de suite. Naomi, qui a compris la leçon, elle a décidé de revenir en Eretz Israël. Et Ruth et Orpa, ses belles-filles, ses brues, l'ont accompagnée pendant le chemin. Et Naomi, elle essayait de leur dire qu'il n'y a aucune raison, c'est bien plus du tout logique, ça y est, on a tout perdu, ils ont d'ailleurs perdu tout leur argent. Revenez chez vos parents, revenez chez vous et recommencez une nouvelle vie. Ruth, elle a été d'accord, elle est revenue. Orpa, elle est revenue. Et Ruth, elle a dit, je reste avec Naomi, et quoi qu'il en soit, ce qui va se passer avec elle, ça va se passer avec moi. Et de cette manière-là, Ruth est arrivée en Eretz Israël, elle a fait une guéroute complète, et il y a eu toute une histoire par la suite. Naomi était proche, c'était une proche de famille du Gdol Hador qui s'appelait Boaz. Comment c'était sa proche? Elimelech, son mari, il avait deux frères. Ils étaient trois frères, Elimelech, Shalmon et Tov. C'était trois frères, qui étaient d'ailleurs les enfants de Nachshon ben Aminadav. Si je ne me trompe pas, c'est Nachshon ben Aminadav qu'on connaît au moment de Kriyat Yam Suf, qui a sauté, le premier qui a sauté dans la mer. Si c'est lui, je n'ai pas vérifié cette chose-là, mais si c'est lui, ça veut dire qu'il a vécu vraiment pendant 300 ans. C'est peut-être un peu difficile à dire ça, donc c'était peut-être un autre Nachshon ben Aminadav, un de ses descendants, parce qu'ils étaient du Shevet Yehuda, mais quoi qu'il en soit, Elimelech, Shalmon et Tov étaient trois frères. Elimelech, qui était le mari de Naomi, il est mort. Et Boaz, c'était le fils du deuxième frère. C'était Shalmon. Donc Boaz, au fait, était le neveu de Naomi. Naomi, elle a dit à Ruth que maintenant, elle est censée se remarier. Elle dit, moi, je suis déjà très, très, très vieille. Il n'y a pas de raison que je me remarie. Mais toi, Ruth, tu dois te remarier. Et donc, le minag, il est que quand quelqu'un meurt sans enfant, s'il n'a pas de frère, ils avaient un minag de quand même choisir un mari qui était dans la famille. Donc, Naomi, elle a séduit Ruth d'essayer de se marier avec Boaz. Donc, Naomi, elle envoie Ruth dans le champ de Boaz. Boaz, il gardait le grenier, toutes les graines qui se trouvaient dans le champ, il dormait dans le champ. Et Naomi, elle a dit à Ruth d'aller dans le champ pour rencontrer là-bas Boaz. Elle lui a dit quand elle va arriver jusqu'à chez Boaz, elle va s'asseoir à ses pieds. Et pourquoi à ses pieds? Et là, le Malbim va nous expliquer quelque chose de très, très beau et très intéressant qui concerne la mitzvah de Yiboum. On remarque que dans la mitzvah de Chalitza, qui est une partie de la mitzvah de Yiboum, il y a toute une histoire que la Yavama, elle va enlever la chaussure de son Yavam. Qu'est-ce que c'est cette histoire de chaussure? C'est quoi cette mitzvah? Comment on explique cette chose-là? Et le Malbim va expliquer d'après le Zohar. Le Zohar, il va nous dire que la Neshama, c'est quelque chose de tellement kadosh qu'elle ne peut pas vivre normalement dans notre monde. Comment Hachem, il donne une possibilité à la Neshama de descendre dans le monde? Il donne la Neshama, il la met dans un gouffre. Et le gouffre qui est très gras et très, très ingrat, très matériel, va être considéré comme la chaussure de la Neshama. De la même manière que quelqu'un qui doit marcher dans la boue, alors, il ne va bien sûr pas marcher directement en pieds nus dans la boue parce que ça le dégoûte. Il va mettre des chaussures. La même chose, le corps va être la chaussure de la Neshama parce que la Neshama a des grandes difficultés de descendre dans le monde qui est pour elle comme de la boue, de la saleté, de la matérialité. Et donc, Hachem va mettre cette Neshama, va l'envelopper par le gouffre et c'est que de cette manière-là où la Neshama peut descendre dans le monde, dans notre monde, le monde matériel. Quand quelqu'un il va mourir sans enfant, alors sa neshama, en fait, elle est dans un grand problème. Parce que la neshama, elle ne veut pas remonter complètement du moment qu'elle n'a pas laissé ici un souvenir. Dans le monde des goufim, dans le monde matériel, elle n'a pas laissé ici quelqu'un qui va le représenter. Donc cette neshama qui tourne dans le monde et qui n'a pas de tranquillité, elle reste un petit peu, entre guillemets, chez sa femme, qui était censé lui amener des enfants. Ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants, donc sa femme, qui est sa deuxième moitié, va être embêtée par cette neshama. Et donc, c'est ça la mitzvah, en fait, de Yiboum. Alors, quand on va faire Yiboum, la neshama de son mari, qui est Niftar, elle va revenir dans le monde sous forme de l'enfant qui va naître du frère de cette personne avec sa femme. Et c'est comme ça que sa neshama pourra revenir et recevoir des, entre guillemets, des chaussures, donc un nouveau gouf pour pouvoir se réaliser dans le monde des goufim, dans le monde matériel. Dans le cas où il ne va pas faire iboum, comment on va donner une tranquillité à cette neshama qui embête, entre guillemets, sa femme? Alors, sa femme, elle va venir chez son beau-frère qui était censé faire iboum et elle va lui sortir sa chaussure qui va représenter que ainsi on fera à la personne qui, entre guillemets, fait sortir la chaussure de son frère qui ne va pas construire, qui ne va pas donner une existence à son frère qui a besoin de vivre, qui a besoin, entre guillemets, d'une chaussure qui va le faire vivre dans ce monde. Et donc, c'est pour ça qu'elle va lui sortir sa chaussure et tout le bedin, tout le monde va dire que ainsi on fera la personne qui ne va pas construire la maison de son frère et on va l'appeler le chalout anal, celui qui a causé que la chaussure de son frère ne peut pas redescendre dans le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le chalout anal. Comme ça, le Malbim, d'après le Zohar, il va nous expliquer l'explication de Yiboum. Donc, on revient maintenant dans l'histoire. C'est pour ça que Ruth va se mettre au pied de Boaz quand elle va venir au grenier pour lui faire un remède, parce que ça ne se fait pas de venir directement en face et de lui dire de faire Yiboum. Elle va se mettre à ses pieds pour que Boaz, qui était un calador, il va comprendre le remède et il va comprendre que c'est une histoire de chaussures et qu'il est censé faire Yiboum et de lui donner, de donner à son mari, en fait, une existence. Boaz, qui a tout de suite compris le remède, il a dit à Ruth que c'est vrai, tu as raison, tu es censé avoir quelqu'un qui va donner une existence à ton mari, mais il y a quelqu'un qui est plus proche que moi, qui est censé, lui, d'abord, se marier avec toi. Si lui, il est d'accord de se marier, d'accord. S'il n'est pas d'accord, alors je te promets, dit Boaz à Ruth, que je vais, moi, me marier avec toi. On n'oublie pas que Boaz avait à ce moment-là 80 ans, et Ruth avait 40 ans à peu près, pas à peu près, et Boaz avait 40 ans, 80, Ruth avait 40 ans. Et Boaz, il a dit qu'il y a quelqu'un de plus proche, c'était qui? C'était Tov, le troisième frère. On se rappelle, il y avait Elimelech, Shalmon et Tov. Boaz, c'est le fils de Shalmon, donc c'est un cousin de Mahlon, le mari de Ruth. Et Tov, c'est un oncle, donc l'oncle qui est plus proche, il est censé lui prendre Ruth avant Boaz, dans le cas où il est d'accord. Les Mefarchim vont expliquer que ce que c'est Yiboum, on sait tous, on a étudié longuement que la mitzvah de Yiboum, ce sera toujours par le frère, mais quand même, c'est vrai que c'est pas ici un vrai Yiboum, mais il y avait un minag qui a été répandu dans le clan d'Israël à l'époque, qui dira que quand il n'y a pas de frère, on cherchera quand même quelqu'un dans la famille, qui n'est pas un proche de Arayot, bien sûr, parce qu'on ne va pas repousser de Arayot pour un minag, qui lui va prendre cette femme pour donner quand même une existence au frère, qui est mort. Le Navi continue à raconter dans Megillat Ruth que Boaz a rassemblé un bedin de 10 personnes et les Mefarchim ont expliqué qu'il leur a posé la question, est-ce que on a droit, il faut d'abord essayer de savoir, est-ce que Ruth est permise est-ce qu'on a droit de se marier avec elle? Et Boaz et le bedin, ils ont décidé avec la massorette qu'ils avaient depuis Alakha Moshe Sinai que la bracha du pasuk qui dira qu'on ne va pas se marier avec le peuple des Moavim, c'est que les hommes des Moavim et pas les femmes des Moaviot. C'était une alakha qui avait été un peu oubliée au courant des générations, que personne ne l'utilisait. Moav, c'était un peuple ennemi. Il n'y avait personne de Moav qui avait fait la guéroute pour qu'on puisse se rappeler de cette halakha, de manière générale, les halakhot. Plus les halakhot, elles sont journalières, plus on va se rappeler des détails. Si des halakhot qui sont très rares, qui arrivent qu'une fois par génération, alors, de manière automatique, il y aura là-dessus des discussions, des halakhot. Qu'est-ce qui s'est passé ici là-dessus? C'était une halakha qui a été un peu oubliée. Et que le Bedin de Boaz a réétabli et ils se sont rappelés que Moshe Rabbeinu, il leur a donné une masorette qu'on dit Amoni velo Amonite, Moavi velo Moavite. Donc la Torah nous a interdit que les hommes d'Amon au Moav et pas les femmes. Donc ça, c'était la première chose qu'ils avaient besoin de savoir. Et finalement, Boaz, qui était lui-même le Bedin, il a invité Tov, son oncle, le frère de Shalmon, pour lui demander s'il est intéressé de se marier avec Ruth en tant que le minag de Mitzvah Tibou. Tov qui est appelé dans le Nar, dans le non, dans ma dans Megillat Ruth, on l'appelle Ploni Almoni. C'est quelqu'un d'inconnu. Rashi explique pourquoi on l'appelle Ploni Almoni, parce que à cause du fait qu'il a refusé de se marier avec elle, alors on n'a pas envie de dévoiler son nom. Mais les Mefarshim diront que c'était Tov, justement, le frère qui a été ramené lui-même auparavant dans le Navi lui-même. Et Tov, il a dit, on va voir à la fin de Megillat Ruth, Tov, il a dit, je ne suis pas intéressé de me marier avec elle, pen ashrit et nachalati, parce que Tov, il n'était pas d'accord, c'était une halakha, comme on vient de voir, c'est une halakha qui n'était pas courante et pas connue dans le clan d'Israël. Donc Tov, il avait peur de se marier avec elle, parce que peut-être que elle fait partie du peuple de, puisqu'elle fait partie du peuple de Moab, on ne va pas se marier avec elle, même si c'est une femme. Tov n'était pas d'accord avec cette halakha. Boaz, il s'est marié avec Ruth, et la fin de Megillat Ruth va nous raconter comment Boaz, il s'est marié avec elle. Il a fait quand même des kiddushin, parce que c'était pas vraiment un yiboum. On a déjà vu auparavant dans la Masechet que dans le yiboum, il n'y a même pas besoin de faire des kiddushin. Ça s'appelle un Mahamar. Il n'y a pas besoin de faire des kiddushin parce que la Torah l'a désigné directement pour lui. Ici, dans ce cas-là, il a bien sûr fait des kiddushin parce que c'était qu'un minag. Et c'était au fait le cousin du mari de Ruth. Et donc, il a fait des kiddushin. Il y avait même les Sheva Brakot. C'est pour ça qu'il avait la bâti personne. Et Boaz s'est marié avec Ruth. Et de ce mariage est né un enfant qui s'appelait Oved. Oved dira la fin de Megillat Ruth, c'est le père de Ishai, qui Ishai était le père de David Amelech. Mais on peut remarquer dans les psukim que le nom Oved n'a pas été donné par la mère. Il y a quelques psukim qu'il faut étudier là-bas. Dans la génération, il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas du tout contents de ce mariage, ils avaient honte de ce mariage du Gdol Hador avec Ruth, une étrangère, une guillorette, et que d'après certains, on n'a même pas le droit de se marier avec elle. Et le pire de tout, c'est que Boaz, le jour où il s'est marié avec Ruth, le lendemain matin du mariage, il a eu le temps d'être avec elle, le lendemain matin, il est mort. C'était son dernier jour de sa vie. Et donc là, c'était les gens qui commençaient à discuter et dire, voilà, cette femme, Ruth, elle s'est mariée avec un premier mari qui est mort tout de suite, parce qu'il s'est marié avec une Goya apparemment. Et puis maintenant, Boaz qui s'est marié avec elle, c'est sûr qu'il s'est trompé dans la halakha, il n'avait pas le droit de se marier avec elle, et voilà la preuve, il n'y a pas une plus grande preuve que ça, que le fait que Boaz il est mort le lendemain. Alors que la vérité était que c'est exactement le contraire. Boaz était censé mourir quelques années plus tôt, et Hachem lui a rallongé sa vie afin de pouvoir amener cette génération incroyable de David Ameler qui va être par la suite la génération du Mashiach. Donc il y avait besoin que ça se passe de cette manière-là. Les Mefarshim vont nous donner aussi quelques secrets là-dessus. On peut remarquer que, entre parenthèses, genre dans une parenthèse, la naissance de beaucoup de tzadikim s'est faite de cette manière-là. Par exemple, les Shvatim, c'était Yaakov qui s'est marié avec deux sœurs, qui normalement est un mariage interdit. Moshe Rabbeinu, qui a grandi chez la fille de Paro, il y a plein de choses bizarres de cette chose-là, de ce genre-là. Ici aussi, toute la malchoute de David Ameler et du Mashiach, on comprend pas pourquoi elle est censée passer de cette manière-là. Ça commence depuis l'histoire de Yehuda avec Tamar. Et Moab, l'histoire de Moab, c'est l'histoire qui était dans Sefer Bereshit avec Lot et ses filles. Et puis par la suite, toute la génération de Moab, toute la nation de Moab. Et puis par la suite, l'histoire de Boaz qui va se marier avec Ruth d'une manière bizarre. Pourquoi toute cette chose-là? Les Mefarshim, le Malbim lui-même va nous expliquer. Il y a plusieurs explications là-dessus, d'après les Mekoubalim, qui diront que le Satan, qui essaie tout le temps de s'attraper sur les choses, les grandes choses qui sont censées se passer dans l'histoire, dans le monde, il faut essayer de lui cacher ces choses-là. Et justement, c'est pour ça qu'on a, on a besoin de passer par toutes sortes de détours et de toutes sortes de choses bizarres pour que le Satan dira que de ce mariage, de ce genre de choses, c'est sûr qu'il ne va rien se passer, il n'y aura aucun tzaddik qui va sortir de là. Et c'est que comme ça qu'on peut contourner, au fait, entre guillemets, le Satan qui essaye de s'attraper sur ces grandes choses. On ferme la parenthèse. Donc, il y avait pas mal de gens dans la génération de Boaz qui continuaient à dire que Ruth n'était pas permise du tout et qu'apparemment la halakha, elle n'était pas vraie. Ruth, elle a eu quand même cet enfant qui est né, qui s'appelait Oved, et que les gens en parlaient sur lui. Que peut-être que c'est un non-juif. Le pasuk dira, à la fin de Masechet Ruth, Naomi, elle a pris, cet enfant qui s'appelait Oved. Donc Naomi, c'était la grand-mère en fait, parce que Naomi, c'est la mère de Mahlon qui est mort. Donc c'est sa belle-fille qui s'appelait Ruth. Elle a eu un enfant de Boaz. Et les gens, ils commençaient à dire que Naomi, il y a un pasouk intéressant qui dira que les gens disaient que Naomi a eu un enfant. Parce que elle n'avait pas d'autres enfants. Les enfants, ils sont morts. Et le Malbim va nous expliquer quelque chose de très, très beau. Il dira, c'est exactement la vérité. Parce que c'était qui l'enfant de Naomi? C'était Mahlon. Et Mahlon qui est mort, il a eu maintenant, sa femme a eu un hiboum. Et puisque sa femme a eu un hiboum et il y a eu un enfant qui est né, donc, entre guillemets, c'est maintenant Mahlon qui est né. Il est revenu en Gilgoul. La Neshama de Mahlon, elle est revenue en Gilgoul. Et donc, c'est pour ça que le pasouk dira à la fin, de Megillat Ruth que Naomi a eu un enfant parce que c'est son fils Mahlon qui est rené. D'ailleurs, Mahlon s'appelle Mahlon parce que son nom signifie que Hachem, il lui a donné une Mechila. Il lui a donné une capara sur la verot qu'il a fait grâce au fait que sa femme a eu un hiboum, mais donc il a eu une nouvelle occasion de revivre dans le monde. Kilion, ça vient du mot Klaya, extermination, parce que Kilion n'a pas eu ce mérite-là, sa femme n'a pas fait hiboum, Orpah, elle est revenue chez les Moabites, et il a été exterminé pour toujours. Ça, c'est un peu l'histoire de Megillat Ruth, en comprenant ce qui s'est passé avec l'histoire du hiboum qui s'est passé là-bas. Finalement, pour finir, plusieurs générations plus tard, il y a eu l'histoire de David Ameler, comment il a été désigné en tant que roi. Ishai, qui était le petit-fils de... Donc, on a dit, il y a eu Boaz qui s'est marié avec Ruth, qui a eu un enfant qui s'appelait Oved. Et Oved, son fils était Ishai. Ishai, c'était le Gdolador. Et Ishai, c'était le père de David Ameler. Ishai, il avait 7 enfants avant David Ameler. Et quand Shmuel Hanavi, il a reçu une prophétie de Hachem qu'il est censé chercher un roi dans la famille de chez Ishai, Ishai a ramené ses 7 premiers enfants et il n'a pas amené David Ameler parce qu'il était sûr que David Ameler c'était pas lui qui était censé être roi. Pourquoi il pensait que David Ameler n'était pas censé être le roi? C'était justement la suite de toute cette histoire incroyable. Ishai, qui était le Gdolador, il a commencé lui-même à penser que c'est très possible que, au fait, lui-même, il n'a pas le droit de se marier avec une juive. Parce que Ruth, qui était une Moabite, et donc Boaz n'avait pas le droit de se marier avec elle, son petit-fils Ishai commençait à penser que c'est pas sûr que cette halakha est vraie et que Ruth était permise. Et à cause de ça, Ishai s'est séparé de sa femme. Après qu'il ait eu 7 enfants, il s'est séparé de sa femme. Plus tard, il a décidé d'avoir des relations avec sa servante. Sa servante qui était une Shifra Kenaanite. Apparemment, il a commencé à être sûr qu'il pouvait se marier avec cette Shifra Kenaanite parce qu'il ne faisait pas partie du clan d'Israël. Et pourquoi il a décidé de se marier avec elle? C'est parce qu'il était intéressé d'avoir des enfants qui sont Kshérim. Pourquoi? Parce que quand il va se marier avec cette Shifra Kenaanite, ses enfants qui seront des serviteurs, finalement, quand il va les délivrer, ils seront des juifs qui sont des juifs Kshérim et pas des mandarins. La servante, qui était apparemment une grande tzadikette, elle ne pouvait pas voir sa maîtresse dans cette souffrance que Ishai va se marier avec elle alors qu'il s'est séparé d'elle pendant plusieurs années, de sa femme pendant plusieurs années. Elle a été chez sa maîtresse et elle lui a dit « Regarde, Ishai est intéressé de se marier avec moi, déguise-toi et passe à ma place. » Finalement, la femme de Ishai, sans le savoir, il a été avec sa femme et de cette nuit est né David Ameler. Ishai, qui ne savait rien du tout de cette histoire, il était sûr qu'il a eu des relations avec sa servante. Il était sûr que quand sa femme, elle était enceinte, c'était un mamzer, son fils était un mamzer parce que lui, il a dit, je n'ai eu aucune relation avec elle depuis plusieurs années. Et à cause de ça, Ishai et tous les frères étaient sûrs que David Ameler, c'était un mamzer pendant des années. Et à cause de ça aussi, ils l'ont envoyé dans le désert pour être un berger, parce qu'ils espéraient qu'il va être attrapé, qu'il va être dévoré par une bête féroce qui va le dévorer, tellement qu'ils étaient sûrs qu'au fait, David Ameler, c'était un mamzer. Et c'est la raison pour laquelle, en revenant dans l'histoire de Shmuel, Ishai, qui a amené ses 7 frères devant Shmuel, pour que Shmuel choisisse un roi, il n'a pas amené David Ameler aussi. Finalement, Shmuel a un avis qui a eu une prophétie. Il a passé de un à un et Hachem, il a dit je ne veux pas celui-là, je ne veux pas celui-là, je ne veux pas celui-là. Jusqu'à qu'il a fini les sept et Shmuel qui demande à Ishaï, est-ce que tu as encore des enfants? C'est bizarre parce que le roi n'est pas d'entre ces sept-là. Et Ishaï, en bégayant, il a dit oui, j'ai encore un enfant, un rouquin, il est très bas, il est berger. D'accord, s'il faut l'amener, je vais l'amener. Ils ont amené David et tout de suite, dès que David Amelech est arrivé, Shmuel, il a compris que c'était lui qui était censé être le roi. Il a oint avec l'huile spéciale qu'on va oindre le roi. Et de cette manière-là, David Amelech était devenu le roi. Et même après cette histoire, pendant plusieurs générations, pas plusieurs générations, pendant plusieurs années, tout au courant de la vie de David Amelech, il y avait des ennemis qui continuaient à parler contre David Amelech. Il y avait pas mal de gens qui disaient que David Amelech c'était un mamzer, jusqu'à que Shlomo Amelech, quand il a construit le Beth Amikdash, les portes du Beth Amikdash se sont ouvertes que grâce au mérite de David Amelech, et c'est qu'à ce moment-là où tout le monde a compris que David Amelech c'était vraiment un très grand tzaddik. Et tout le monde a été d'accord que David Amelech c'était un des plus grands tzaddikim de notre génération. Voilà, ça c'est une introduction à Megillat Ruth, une compréhension à propos de la mitzvah de Yiboum et la halakha spéciale qui dira que Amoni velo Amonit, Moavi velo Moavit.